With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est pas ma faute. Un livre d'Anne-Fleur Multon et Samantha Bailly.
En général, j'ai affaire à un écrivain, ou une écrivaine, peu importe.
Eh ben nous, c'est écrivaine.
Je pose une question, et après, j'essaye de rentrer un peu en profondeur dans les motivations du livre. Sur des thèmes comme l'humour, ou la mort, ou la paternité, des choses comme ça.
Non, la paternité, on va avoir du mal, hein, mais...
Mais pourquoi pas, attends, je suis très ouvert. Et,
bah,
et
la...
Ouais, on sait pas.
C'est un sujet du livre. Frère.
Et oui, donc, en fait, c'est une relation un peu intime qui se passe entre un auteur et moi, et deux personnes, j'ai jamais fait.
Eh ben,
je sais pas.
C'est la première fois.
C'est quoi la différence entre la littérature et la littérature jeunesse ?
Alors...
Nous, on parle de littérature vieillesse et de littérature jeunesse.
La littérature jeunesse, c'est pas un genre. On a le genre policier, on a le genre de la romance. On les retrouve en littérature jeunesse. La littérature jeunesse, elle a ça de spécial qu'elle s'adresse à un public particulier, un public qui est en train de grandir. Et c'est ce qui fait sa spécificité et son aspect follement excitant, à vrai dire.
T'es en train de me répondre très sérieusement, en fait.
Ah mais oui, tu me poses la question.
Je sais pas, t'avais l'air très opposé à l'idée d'une littérature jeunesse. Je trouve que c'est une opinion super réac.
Ah, voilà.
C'est parti.
C'est une littérature qui est formidablement excitante parce qu'elle exclut les adultes et qu'elle s'adresse à un public pour lequel on écrit, nous, en tant qu'adultes, qu'on a été, mais qu'on ne connaît plus. Et donc, il y a des spécificités, de développement. Quand on a 7 ans et demi, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses que quand on en a 14. Voilà, quand on en a 14, on est en plein boom hormonal, on veut de la sensualité, on veut du sexe, on veut des sentiments qui nous arrachent le ventre et le bide et tout ça. Tandis que à 7 ans et demi, on veut découvrir le monde, on rêve d'aventure, etc. Et on ne maîtrise pas, par exemple, nécessairement un certain nombre de temps.
On n'a pas encore appris, par exemple, le passé composé à 6 ans et demi, 7 ans.
Mais par contre, on a tout à fait le droit de lire un texte qui soit de qualité, qui nous fasse rêver. Parce qu'on vaut autant qu'un adulte dans son imaginaire. On n'est pas tout à fait au même stade. Et c'est pas que les adultes sont plus grands ou meilleurs. Au contraire, souvent, ils sont carrément plus chiants, quoi. Et en littérature jeunesse, de toute façon, on profite de la chance d'être complètement exclus des instances légitimantes, donc on n'a pas de prix, qui sont vraiment beaucoup dotés ou qui sont vraiment regardés du public. Donc nous, on fait un peu ce qu'on veut.
Dans une certaine mesure, parce que c'est quand même la seule littérature qui aujourd'hui est soumise à la censure en France.
Voilà.
Faut le savoir.
Comment ça, la censure ?
Mais il y a une loi, en fait, qui fait qu'on ne peut pas publier ce qu'on veut en littérature jeunesse.
Ça plaît au réac que je suis.
Voilà. Parfait pour toi.
La littérature universelle, ça n'existe pas. C'est vraiment un mythe. On écrit dans son siècle pour un certain public qui sait un certain nombre de choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que des livres qui ont été des succès phénoménaux, par exemple au 19e siècle, sont aujourd'hui totalement oubliés et que les livres, nous, dont on estime qu'ils sont des classiques du 19e siècle, étaient considérés parfois comme de la littérature de gare. Moi, je pense qu'en fait, on est très chanceux de s'adresser à un public particulier et spécifique quand on s'adresse à la jeunesse. Alors nous, dans notre livre, on s'adresse à une certaine jeunesse, qui est la jeunesse adolescente, qui vit des spécificités. Alors on s'adapte, bah, pas forcément en termes de... On n'a plus besoin de s'adapter en termes de temps. Ils maîtrisent et ils ont suffisamment de références pour qu'on puisse, je trouve, écrire quelque chose qui soit entendable et se faire plaisir en termes de style, peut-être avec moins de contraintes, même si la contrainte, je la trouve pas forcément désagréable en écriture, quoi. Mais du coup, on cible un certain nombre de thèmes qu'on n'utiliserait pas si, par exemple, on s'adressait à des trentenaires désabusés ou des quarantenaires dépressifs.
Ou des sexagénaires réac.
Ou des sexagénaires réac, évidemment.
le polar, c'était une porte ouverte à la liberté d'écriture. Est-ce qu'il y a aussi dans la littérature jeunesse cette ouverture ? Est-ce que ça ouvre une écriture qui n'existait pas avant ?
Je pense que ça peut vraiment être un terrain de jeu, mais je dirais que c'est pas propre à la littérature jeunesse. D'ailleurs, les libertés qu'on s'est autorisées dans C'est pas ma faute, du point de vue du style, du point de vue de la narration, des fractures de la narration, etc., c'est des choses que je me serais tout autant autorisée, en fait, dans un autre genre. Ce que je trouve intéressant, c'est cette idée, en effet, de public spécifique, parce que dans ce cas-là, enfin, sur, en plus, c'est pas ma faute, on est sur une génération qui a vraiment une particularité qui est de grandir avec les réseaux sociaux d'une façon que nous, on n'a pas connue. Je veux dire, moi, quand j'étais au lycée, il n'y avait pas Facebook, en fait, à l'époque.
T'es pourtant très jeune, quoi.
J'ai 31. C'est pour dire que déjà, les fractures de génération dans cette accélération, elles sont beaucoup plus grandes que ce qu'on imagine.
On s'en est rendu compte, d'ailleurs, toutes les deux, en écrivant C'est pas ma faute, parce que on n'a pas tant d'écart que ça, à vrai dire.
Mais déjà, on n'a pas le même vocabulaire sur certaines choses.
Et même le même rapport aux technologies. Enfin, j'ai 26 ans et Sam en a 31, effectivement. Il y avait déjà un écart et une pratique qui était différente. Et dans C'est pas ma faute, on s'adresse à des ados qui sont à un siècle de nous. Et notre travail à nous, c'est justement de pénétrer dans cet univers-là et de ramener à l'intérieur de la poésie, de l'utilité, de la nécessité, parce que on écrit un livre sur les réseaux sociaux, pas un guide sur les réseaux sociaux. Donc
oui, c'est pas.
Dès que ces réseaux sociaux, c'est toujours qu'est-ce que vous voulez dire des dangers d'internet ? Enfin, comme si on allait écrire un manuel moralisateur, ce qui n'était pas du tout le but. Le but, c'était vraiment de raconter une histoire que peuvent vivre des jeunes filles aujourd'hui dans ce monde-là.
Moi, j'ai survolé le livre. J'ai pas lu le livre.
C'est bien de l'admettre déjà.
Pour moi, ça ne parle pas tant de réseaux sociaux. Mm-hmm. Que la difficulté de reconnaissance devant la multiplication des images et aussi des rapports compliqués dans le fait de s'assumer quand on est différent.
Je suis d'accord. Je pense que c'est exactement le thème de C'est pas ma faute, à vrai dire. Je pense que...
Sans l'avoir lu, c'est fort.
C'est fort. Ouais, à vrai dire...
Je rien que mais fort. C'est d'autant plus dangereux.
Oui, ça fait très peur.
La différence, elle est au cœur à la fois de notre roman et d'ailleurs une particularité des romans qui s'adressent à cette tranche d'âge, puisque c'est le lycée, c'est l'âge où on s'émancipe de ses parents, c'est l'âge où on fait ses expériences, où on se rend compte que à la fois on est issu d'un milieu social qui n'est pas universel, mais qu'on aspire parfois à autre chose. Et qu'en même temps, on ne va pas pouvoir s'en débarrasser aussi facilement, et peut-être même qu'on y est attaché, mais que ça crée des ponts et des fractures avec les autres. Et dans C'est pas ma faute, ça crée des ponts et des fractures qui sont des fractures sociales, des fractures mentales aussi. Enfin, un des sujets de C'est pas ma faute, c'est la santé mentale. Et je pense que le roman sur la question de l'acceptation, il utilise les réseaux sociaux parce que, comme tu dis, c'est étonnant ce rapport qu'on a qui crée une norme par l'image, une façon de se montrer qui est toujours identique, toujours valorisée et en même temps qui nous rappelle sans arrêt qu'il faut qu'on écrive notre histoire pour pouvoir ressembler à celle des autres parce qu'en fait, on est différent.
Alors, la question, c'est celle-là. Anne-Fleur et Samantha. Est-ce qu'il est paradoxalement plus difficile d'assurer sa différence quand tout est affiché en permanence ?
Oh bah sûrement. Enfin, ça peut être vraiment à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut à la fois être une force, mais c'est ce que disait Anne Fleur sur la puissance des normes, en fait. Et surtout quand on est adolescent et qu'on est dans une phase souvent où c'est extrêmement rassurant de pouvoir se fondre dans un ensemble et qu'on se questionne nous-mêmes sur toutes ces transformations et qu'on a envie de ressembler à... Et dans le cas de Lolita, qui est notre héroïne, qui est donc une influenceuse connue et reconnue, elle correspond, elle coche toutes les cases de la norme, en fait. C'est-à-dire qu'elle poste des photos d'elle qui vont toujours renvoyer à des idéaux de jeunes femmes, belles, qui réussissent, etc. Alors que c'est aux antipodes de sa vie.
C'est la détresse que connue pas mal aussi de jeunes stars d'Hollywood, etc. Mais c'est pas exactement là que je voulais t'emmener, Samantha, parce que c'est toi qui me réponds, Madame la vice-présidente. Aujourd'hui, on est amis avec des milliards de personnes à qui on envoie des photos.
Oui,
on pourrait se dire, ah ben oui, génial, c'est super sympa d'un côté, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ça enferme. C'est ça que je trouve paradoxal, ça devrait libérer en fait.
Alors, c'est vraiment un sujet du roman parce que justement, je pense que on le voit pas mal avec Prudence pour le coup. Elle est donc sans révéler si on peut ou
non,
pas.
On va pas révéler.
Non, on va pas révéler. Oui.
Elle a un grand secret, Prudence. Elle a un grand secret, un truc qui lui ronge le bide et qui elle a l'impression qu'elle a que c'est tellement grand pour elle que ça lui dévore les entrailles à l'acide. Et elle est dans une famille, Prudence, qui veut tout son bien, qui l'aime, elle a des parents adorables, qui la pousse beaucoup à réussir. Et du coup, elle a une grande pression parce qu'elle veut surtout pas les décevoir, surtout, surtout pas, faudrait du coup qu'il découvre son grand secret. Elle trouve dans sa vie en ligne un soulagement de son quotidien à elle, qui est pas nécessairement une communauté du coup, mais davantage une projection du besoin qu'elle a, elle.
Samantha fait oui avec la tête pour ceux qui ne voient pas. Ça fait oui, oui d'un côté. Enfin, j'ai Enid Bliton à ma gauche.
Et du coup, je ne sais plus ce que je
dis. Si, 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 bah excuse-moi, tu étais en train de dire qu'elle trouvait.
Elle trouvait dans cette.
Un échappatoire.
Et une projection d'elle qui la rassure. C'est comme ça qu'elle aimerait être. Parce que Prudence, elle a les cheveux crépus.
Elle est noire, elle a les cheveux crépus, mais elle suit finalement une nana blonde avec les cheveux lisses et elle se lisse les cheveux. Elle est dans un mimétisme, en fait, d'une autre qui lui permet. Pas encore, en tout cas, de s'émanciper, mais c'est plutôt qu'elle a besoin de se rassurer en se disant qu'elle correspond à une norme. Donc, c'est toute l'ambivalence, je trouve, de cet outil, quoi.
D'accord, super.
Pas convaincue, finalement. Hein.
C'est le côté réac.
Y a donc, puisqu'on parle de roman, allons-y, y a Lolita.
C'est deux référentiels. C'est à la fois, bah, évidemment, Nabokov avec tout ce que ça porte de la jeune fille sexualisée. Et c'est aussi Alizé des années 2000, parce que ça a été toute une réinvention, une réécriture constante.
Lolita. Mylène Farmer, Graine de Star, Alizé. Ah ben voilà, okay. Voilà là, le réac
attends,
en
mais,
pleine...
Mais non, mais attends, tu me parles des trucs, okay. J'avais déjà 75
alors,
ans.
Dans alors. Les années 2000, il y avait une émission qui s'appelait Graine de Star, et il y a une fille qui a gagné qui s'appelait Alizé.
Ah
qui
oui,
qui a
mais
fait
j'ai...
un tube oui. Qui s'appelle Lolita.
Ah, elle a fait un tube qui s'appelle Lolita.
Exactement. Voilà.
Moi je m'appelle Lolita, l'eau ou bien le lin, du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita.
Ça te dit rien ?
Ah que dalle !
Quand je dors,
voilà. Bah ça dira à plein de personnes.
Bon, okay.
Et en fait surtout, c'est, ça dira pas à notre public
qui connaît pas
évidemment.
Bah non.
Mais la maman de Lolita. Elle a eu Lolita à cette période et donc en fait elle la nomme comme ça. C'est naze. Il y a rien de plus naze que de se faire appeler Lolita.
Une
chanson des années 2000.
Ah, bah, oui. La maman, elle est d'un milieu social qui est pas forcément favorisé. Elle a pas la référence littéraire en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que Prudence.
Oui, elle l'appelle Lolita pour le comme si elle l'appelait Joe le taxi quoi.
Exactement.
Exactement. Hein,
c'est ça. Parce que je connais Joe le taxi.
Brillant.
Et Prudence, il y a une chanson que vous connaissez des Beatles, dire Prudence, non?
Non.
Vous connaissez pas, vous connaissez pas.
Non, voilà,
c'est vraiment Prudence. Le choc des générations.
Da, 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 da. Oui, écoutez, dire Prudence, c'est une très très jolie chanson.
Et alors Prudence, c'est un très beau prénom qui est lourd de sens, qu'on a choisi pour plusieurs raisons. Prudence, elle a des origines gabonaises. Elle habite à Bordeaux et Bordeaux, en fait, c'est une ville qui était liée à l'immigration gabonaise. C'était le port d'attache de Libreville, qui était une colonie française pendant très longtemps, hein, le Gabon. Et donc du coup, il y a une grosse communauté gabonaise. C'est un prénom assez traditionnel au Gabon. Donc s'appelle Prudence Ndiaye et c'est aussi un nom qui est un peu comme Constance, un peu qui veut dire quelque chose. Prudence, c'est aussi lourd comme prénom parce que c'est à la fois un choix des parents, attention, et c'est aussi formateur pour soi un prénom. Et donc c'est grandir avec. Alors nous, c'est un personnage qu'on invente, donc l'histoire du prénom nous sert à construire le personnage. Mais du coup, c'est grandir avec ce poids un peu social. Il faut pas dépasser les limites. Il faut toujours rester
prudent.
Donc pour elle aussi, ça va être un enjeu dans l'histoire de défier son prénom, quoi. Voilà.
Quels sont exactement les liens qui vous unissent toutes les deux? Vous dites que vous travaillez à quatre mains, ce que j'ai trouvé curieux parce qu'on tient un stylo que d'une main dans votre tube. Mais
après, nous, c'est un clavier. Vu, nous, c'est un clavier.
J'ai vu que c'était un clavier après.
C'est, oh là. C'est la génération.
J'ai vu.
Tu écris encore au carnet, à la plume?
Mais évidemment,
doigt.
Bah oui. Excuse-moi, pardon. Pardon d'aimer le beau.
Ah, c'est génial.
Mais tu serais offusquée par mon Mac qui a un sticker sur la pomme qui est un doigt d'honneur. Tu pourrais pas poser tes doigts sans choper une réaction allergique terrible. Ah, les millennials, ah, ils vont me bouffer.
Quels sont exactement les liens qui vous unissent toutes les deux ?
Moi, je connaissais Samantha parce que j'avais lu ses romans. J'étais une lectrice et je l'ai croisée à un salon de livres Paris. J'étais encore.
C'était à la soirée d'inauguration.
Exactement.
J'étais sur un stand.
Et moi, j'étais journaliste à cette période et je voulais absolument faire un article sur Samantha. On prend son courage à deux mains, on va la voir, on lui dit bon, est-ce que ça serait possible de faire une interview et de prendre une photo ?
La photo la plus moche de l'histoire, oui. des photos.
Elle existe, mais elle a été très mal prise par quelqu'un qui parlait à Sam à ce moment-là. Et ensuite, il s'avère que moi, mon premier roman sortait à peu près à ce moment-là. Et ça m'a proposé de prendre un café. Elle a vu que mon roman sortait. Elle m'a dit écoute, je sais que c'est pas toujours évident d'arriver dans cette industrie, etc.
Moi, ça me faisait peur de la voir, en fait, quand je l'ai vue, qu'elle arrivait. Et qu'elle m'a dit, je veux devenir autrice, je veux en faire mon métier, et je lis vos livres, je lis vos vidéos, et je veux vous dire que vous motivez. Et voilà, quand on connaît les conditions de notre métier actuellement, dès que je vois une jeune personne qui arrive et avec ses étoiles plein les yeux, j'ai un instinct un peu maternel de protection qui me pousse à dire peut-être prenons le temps de parler pour voir si tout va bien.
Ce qui est extrêmement précieux. Et donc on s'est retrouvés à ce café où finalement on est resté à boire du blanc pour Sam et du rouge pour moi jusqu'à 1h du matin, ce qui n'était pas du tout prévu. Et en fait, on s'est trouvé un certain nombre de sujets communs. Et peut-être des expériences communes aussi, un peu de transfuge. Transfuge, c'est un mot qu'on emploie pour dire qu'on a changé de catégorie sociale.
C'est qu'on a connu toutes les deux une grande précarité sociale. Quoi.
Oui, voilà.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire vraiment de vivre avec extrêmement peu d'argent, d'être dans la galère, de ne pas savoir comment s'en sortir.
Voilà.
Enfin, voilà.
En fait, on s'est quitté en se serrant la main en se disant « Ah, on va écrire un livre ».
Parce qu'on avait déjà l'idée.
On avait déjà l'idée.
Elle, à la fois, elle voulait traiter du sujet des youtubeurs par un article. Moi, j'y réfléchissais pour un projet de livre. Et en fait, ça s'est rencontré à ce moment-là avec une idée qui est née tout de suite et le titre qui est arrivé quasiment tout de suite.
Ouais.
Et du coup, en rentrant, mais c'est curieux, j'avais cette sensation, ce qui est très bizarre, parce que je n'ai jamais écrit avec quelqu'un d'autre. C'est quelque chose, pour moi, d'extrêmement intime et d'extrêmement puissant que j'avais jamais fait. Et je suis rentrée à la maison, j'avais son livre et tout, donc j'ai commencé à lire. Et j'étais même pas surprise, en fait, que c'était aussi bien écrit, parce que quand on s'est parlé, j'ai senti que cette personne avec qui je parlais de ça ne pouvait pas mal écrire. Mais ce qui est d'ailleurs peut-être un présupposé qui aurait été complètement faux. Mais voilà, et ça s'est fait immédiatement dans une sorte de coup de foudre amical.
On a dit toutes les deux qu'on avait vu dans l'autre qu'elle brûlait. Et c'est quelque chose qu'on s'est dit, et même qui est un des sujets du livre, à vrai dire, c'est des personnages qui brillent. Et qui brillent parfois tellement fort malgré eux, qui brûlent, qui se font mal, qui prennent des coups. Ce ne sont pas des personnages faciles, en fait. Et on a tendance à penser, parce qu'on a une petite couverture rose, et que c'est...
Ce qui est tout à fait un peu nous d'extérieur,
c'est
tu vois.
C'est tout à fait nous.
Tout le monde nous trouve très mignonnes, et puis après, ils se disent « Ah oui, voilà. En fait, elles ont du caractère.
» Du caractère, et puis des blessures aussi. Ouais. Je pense que c'est un livre qui parle de ça, en fait. C'est un livre de blessures, avec des personnages qui n'ont que 16 ans, et souvent, nous, les adultes, on est là. Les problèmes,
oui,
des
les
ados.
Blessures des ados.
Mais en fait, c'est des gouffres profonds qui sont à leur taille et qui sont très douloureux. Et quand on a 16 ans, on peut déjà avoir des bleus et des coups. Et on peut déjà savoir ce que c'est que la vie, en fait, et grandir. Ça fait mal aussi. Donc, c'est un livre qui parle de ça, ouais.
Quand j'ai rencontré Anne Fleur, j'ai ressenti quelque chose que j'avais pas senti depuis longtemps. La totale liberté et confiance de quelqu'un qu'on connaît à peine, avec qui on peut parler de tout.
Dans ce livre-là que j'ai dans ma main, c'est pas ma faute, épreuve non corrigée. Ça veut dire qu'il y a des fautes d'ailleurs, du coup.
Donc,
c'est
oui,
pas ma
d'ailleurs,
faute.
Il y a quelques fautes dans ces épreuves de ces femmes.
D'accord, voilà, oui, c'est voilà. Quand même tragique. Est-ce qu'il y a une volonté de faire passer un message aux jeunes femmes qui vont lire ce livre ?
Je dirais même au-delà du message, c'est que la puissance du récit, de toute façon la puissance d'une histoire, hein, tout simplement quand elle est racontée, c'est que justement on n'était pas dans le guide moralisateur, on n'est pas voilà, dans tout ce qui a pu se faire sur Internet aujourd'hui pour les jeunes, voilà, à l'adresse des parents, etc. C'est vraiment, on suit l'intime et le quotidien de ces deux jeunes filles.
Et évidemment qu'il y a une portée qui est combative au sens où, par leur trajectoire, on va se poser un certain nombre de questions sur des injustices en fait qu'elles vivent toutes les deux et sur la façon dont il y a ou non des réparations dans ces injustices. Après, c'est pas un manifeste militant, c'est pas ça la question, mais c'est que évidemment que nous-mêmes, vu que on est porté par un certain nombre de combats dans nos vies, et le combat c'est pas forcément le conflit en fait, hein, c'est vraiment la volonté. Non mais si, c'est vraiment important comme nuance parce que je trouve qu'à chaque fois.
J'ai hoché la tête, hein, j'explique
oui.
parce que.
Sinon... Non mais dans les réactions de ces échanges, c'est dès qu'on est un peu justement dans une revendication de quelque chose, c'est tout de suite ah elle s'énerve, etc. Or, c'est pas du conflit, c'est vraiment une position. Moi, je dirais que c'est ça, oui. C'est un positionnement. C'est-à-dire, ça, c'est important de le dire à tel moment.
Tu parlais du message de « c'est pas ma faute » et je trouve que c'est intéressant la façon dont tu le prends, Sam, parce que nous, notre message, il est pas du tout dirigé vers les hommes. C'est un livre féministe qui cherche à amener des solutions. D'ailleurs, c'est même dans la structure du récit. On a écrit un thriller qui ne s'arrête pas quand l'énigme est résolue. Quand on sait enfin ce qui s'est passé.
Non, c'est aux deux tiers à peu près. Non,
exactement,
ouais,
aux deux tiers. Et en fait, il y a un autre tiers qui est un peu inédit du coup, parce qu'il me semble que en fait, quand on a trouvé l'énigme du mystère, on n'a pas résolu toutes les questions, que ce soit dans la vie ou dans un roman. Et en fait, nous, on avait envie à nos lectrices et à nos lecteurs d'apporter des solutions aux problèmes qui vont se poser dans leur vie, parce que c'est des ados en 2020-2021. On connaît les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils grandissent, par exemple, dans une génération qui est marquée par MeToo, par la surreprésentation dans des médias qu'eux-mêmes maîtrisent. Voilà, il y a plein de sujets où ils sont à la fois créateurs, victimes, spectateurs, inquiets. Et nous, on avait envie en fait de leur apporter non pas une inquiétude supplémentaire, mais la reconnaissance de la société dans laquelle ils vivent et de leurs douleurs à eux, de leurs interrogations à eux, et au-delà de la reconnaissance et de la légitimation de ces angoisses, de ces besoins, de ces désirs, de ces rêves, etc., des solutions pour y arriver. Et donc nos héroïnes, c'est pas du tout un spoiler que de le dire, elles expérimentent quelque chose qui, à mon avis, me semble être la solution que devrait embrasser la société, qui est la sororité, la bienveillance, la tolérance, le respect. Et ça peut sembler très Mère Teresa, mais en réalité, à mon sens, il n'y a rien de plus politique que d'être capable de faire preuve de tolérance, de sororité, de bienveillance, enfin, des gens qui sont différents de soi.
Et d'entraide, parce qu'il y a vraiment...
Et d'entraide, qu'elle soit entre générations ou intergénérationnelles, parce que tu parlais de l'écart, du conflit, du fossé qui séparerait plusieurs générations, à mon sens, c'est quelque chose de très riche, de très douloureux, qui génère beaucoup d'incompréhension, mais qui peut aussi apporter énormément, parce que tout le monde n'a pas la même expérience. Quand on a 16 ans, on n'a pas la même expérience que quand on est parent, par exemple, dans le cadre de Prudence, elle est entourée par sa famille, qui est très présente, et qui est différente. C'est-à-dire qu'il y a ses deux parents, il y a sa mère, il y a son
papillon.
Père, il y a son papy, il y a son frère, il y a son autre frère.
Grande famille.
Elle a sa meilleure amie. Et alors, en fait, évidemment, mais tous ces personnages qui sont des personnages secondaires, on les a vraiment construits et inclus dans l'intrigue. Ils sont vraiment là pour amener des pierres à l'édifice, qui est l'édifice, nous, de notre pensée, à mieux se comprendre, grandir et dépasser les problèmes qui se posent à chacun, en fait.
C'est un roman qui est un thriller avec ce que ça peut porter de sombre, mais qui est quand même résolument lumineux parce que il se passe des choses quand même très positives, hein, il faut bien le dire. Mais c'est vrai que c'était un truc hyper important pour nous de se dire, on laisse pas l'intrigue à un moment où finalement on ferme des portes, quoi. L'idée, c'était d'en ouvrir et de montrer qu'il peut y avoir des solutions.
C'est une aventure. On peut décider que tous ces messages qu'on porte et qui infusent l'intrigue
sont importants ou pas.
Voilà. Et on peut décider de s'accrocher principalement à l'histoire des personnages, et certainement qu'on sera malgré tout influencé par leurs choix, leur vie, etc. Mais ça reste avant tout une histoire. L'objectif, c'est d'aller au bout, de rester jusqu'à 3h du matin sous sa couette, d'avoir passé un bon moment aussi, parce que ben, c'est aussi ça la littérature, d'avoir pleuré, peut-être ri, d'avoir senti son cœur battre parce qu'il y a des histoires d'amour. Voilà.
D'accord, ok, sous la couette. Une question juste pour finir.
D'accord.
Puis après, on va se séparer comme ça. Il y a une époque où les jeunes, quand ils voulaient avoir des repères, ils se tournaient vers leurs aînés, tout simplement.
Ouais.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans beaucoup de sujets, c'est plus vers là qu'ils regardent.
Je pense qu'ils ont un outil qui est Google et qui est qu'il y a certaines questions, peut-être dont ils allaient chercher les réponses ailleurs à un moment, qui sont un peu plus sous la main. Mais en tout cas, dans C'est pas ma faute, la relation avec les aînés et avec les parents est, je dirais, peut-être même un des sujets les plus importants du roman. C'est-à-dire que la façon dont Prudence et Lolita interagissent ou ont interagi avec leurs parents, comment elles ont su trouver ou non de l'aide et de l'écoute vis-à-vis d'adultes. Les adultes, ils sont présentés autant dans leur rôle parfois démissionnaire et défaillant que dans leur rôle salvateur, en fait.
Il n'y a pas que les deux. Parents, d'ailleurs.
Il n'y a pas que les parents.
Dans C'est pas ma faute, en dehors de la famille dont on a déjà parlé, il y a aussi les institutions qui sont parfois défaillantes et qui sont vraiment parfois là pour nous aider. Nous, on a voulu présenter une institution particulière qui n'est pas toujours positive en plus, mais nous on a choisi une institution qui existe réellement, j'en dis pas plus parce que
non, faut pas
c'est,
dire
un,
plus.
C'est un secret du roman, mais une institution particulière qui est, existe vraiment et qui est pionnière en France, et on a voulu la présenter comme un modèle parce qu'on y trouve des adultes précieux qui aident les enfants, les ados, les mineurs, et que c'est aussi un modèle qu'on a envie de donner parce qu'on sait qu'en plus notre livre ne sera pas lu que par des ados.
Bien sûr. Il a été déjà lu par plein d'adultes,
il
en fait.
Voilà. Et on espère qu'il aura aussi un impact sur les adultes parce qu'en réalité, tout le monde a à apprendre des relations qu'on a avec les autres.
Il a déjà un impact sur moi, c'est bien. C'est
bah, voilà, on est là aujourd'hui pour en parler et tu as appris un certain nombre de choses.
Et moi, je pense que ce serait hyper intéressant qu'il y ait des parents qui lisent ce roman parce que ce livre met aussi vraiment en exergue l'incompréhension de certains parents par rapport à la réalité de ce qui est vécu virtuellement. Une Lolita qui vit du cyberharcèlement, par exemple, ça c'est dès le début du roman, sa mère, elle se rend pas compte en fait, parce que quand on n'a pas de compte Twitter, on se rend même pas compte de l'impact psychologique que ça peut avoir de recevoir 40 insultes toutes les minutes en fait. Et du coup, c'est hyper important parce que je pense que on en a vu plein, moi j'en ai vu des tonnes, des reportages avec des parents, avec leurs enfants, justement par rapport à Internet, qui ont un peu de succès, qui disent « Ah bah oui, moi j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai pas compris ce qui est arrivé, elle a commencé à recevoir des trucs de marque, elle a commencé à avoir des contrats, elle a 14 ans, j'ai pas compris. »
Et... Mais d'ailleurs, il y a une loi là qui vient d'être...
Ouais, on a vu qu'il y a une loi qui venait d'être adoptée.
Adoptée, qui est censée encadrer le travail des mineurs sur YouTube. C'est quand même une très bonne chose. C'est chouette que ça soit dans l'actualité pour la sortie du roman. Parce que c'est un truc pour lequel nous on plaide aussi, enfin, la protection du travail des mineurs.
Oui. Parce qu'en fait, le sujet du roman, c'est que c'est un travail. Et ce qu'on disait sur c'est la beauté, donc machin. Bah, en fait, Lolita, c'est une influenceuse, c'est ce qu'on dit. Et c'est ce qu'elle sait. Le maquillage, ça a l'air d'être un truc d'extérieur. D'ailleurs, je pense qu'on est beaucoup de femmes à avoir ces réflexes de penser que, ah oui, bon, c'est une chaîne de maquillage, quand on sent qu'il y a parfois un petit mépris. Mm-hmm. Or, c'est un degré de compétence quasi artistique, en fait, voire complètement artistique en fonction de la capacité qu'a la personne de pouvoir manier ça. Enfin, voilà, c'est une vraie expertise.
Ok, vous êtes passionnée par votre bouquin. Ça, c'est très, très bien.
On y a passé deux ans.
On l'a écrit.
J'ai compris.
On en est contente.
Samantha, qu'est-ce que je peux vous souhaiter?
Le bonheur, l'épanouissement, la créativité.
Ça fait beaucoup quand même ça.
Alors, bah oui, mais moi je prends tout.
Un petit bout seulement.
Moi je prends tout.
Mais le truc qui vous ferait plaisir avec ce livre, par exemple.
Ah, moi, ce qui me ferait vraiment plaisir avec ce roman, c'est d'en discuter en fait avec les lecteurs et lectrices. En fait, j'ai hâte qu'ils sortent et j'ai vraiment hâte qu'on puisse avoir des discussions, que ce soit quand on va se rencontrer pour les tournées et tout ça, que ce soit dans les classes, voire sur Internet aussi, parce qu'on reçoit quand même beaucoup de messages. Et je suis vraiment intriguée de...
La façon dont il va être
reçu. De la façon dont il va être reçu et de si ça va résonner aussi fort que ça a résonné pour Anne-Fleur et moi, parce qu'on y a vraiment mis énormément d'intime.
Si vous avez mis même que la moitié de ce que vous avez mis là, il y a eu beaucoup.
Ah ben voilà. Et donc ça, c'est vraiment intriguant.
C'est vrai qu'on n'est pas très à moitié.
Et Anne-Fleur, qu'est-ce que je peux vous souhaiter?
Moi, je ne sais pas ce qu'on pourrait me souhaiter vis-à-vis de ce livre.
En général, est-ce que tu es contente des fois?
Mais je suis tout le temps
c'est
contente.
Quelqu'un de très joyeux.
Quelqu'un d'extrêmement optimiste.
Oui, mais regarde pas. Oui, d'accord. Ok, c'était une question.
Moi, je crois en une société joyeuse, heureuse. Par exemple, dans ce livre, il y a énormément de passages sur la nourriture.
Il y a beaucoup d'humour aussi. Attends, on l'a pas dit, mais...
Oui, d'accord, je le dis. Il y a beaucoup d'humour.
Mais tu l'as pas lu.
c'est pour ça que je le dis.
J'aime par-dessus tout les moments cocooning, passer avec mon chat et mes amis, à manger des petites choses délicieuses.
Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Ce qu'on peut me souhaiter, j'y viens. De continuer à pouvoir vivre de mes histoires,
Ça serait ce qu'on peut me souhaiter de plus beau, je pense. J'ai la chance que ça soit mon métier et j'aimerais que ça continue toute ma vie. Ouais, je réalise encore difficilement à quel point je suis touchée de... J'ai toujours écrit des histoires et j'aurais jamais pensé qu'un jour ça deviendrait des livres déjà, qui sont des objets incroyables parce qu'il suffit de les prendre et on est dans un autre monde. Voilà. On n'a pas besoin de sous, on n'a pas besoin d'autres personnes, on a besoin juste du bouquin et de soi, quoi. Et de pouvoir offrir ça aux autres et que mes histoires plaisent, ça c'est vraiment incroyable. Et puis de pouvoir en vivre, ça veut dire que je peux continuer à en écrire, je peux continuer à rencontrer lecteurs et lectrices. Et on n'en a pas parlé un petit peu, mais ouais, moi aussi j'ai hâte qu'il sorte ce bouquin parce qu'en fait je m'en fous qu'il soit écrit. Hein, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'il soit lu, quoi.
Bah, on s'en fout pas qu'il soit écrit parce qu'on a passé du temps dessus quand même.
Non, mais on est content qu'il soit écrit. On oui. a d'ailleurs, on en a beaucoup parlé, quoi. On a fait des vlogs et tout pour raconter l'écriture de ce projet qui était long et.
Non, ce qu'on te souhaite, c'est quoi, du coup ?
Ben
qu'elle puisse continuer de vivre de l'écriture.
Que je puisse continuer à pratiquer mon rêve tous les jours, si tu veux que ça soit.
Bah, écoute, moi, je te le souhaite.
Voilà.
Merci bien beaucoup. Gentil.
Merci d'avoir été là avec ce jour de pluie. À bah parler oui. avec un vieux réac. C'est
mais
très
ça
cool.
nous fait super plaisir.
Merci.
Ouais, on était très contentes.
Merci.
Voilà.
C'était C'est pas ma faute, un livre d'Anne-Fleur Multon et Samantha Bailly.
Ces points comme un fort. Tu m'as sorti un truc compliqué que j'ai pas tout compris. Mais c'était quoi ces points ?
Une grande bienveillance, une volonté d'écrire des choses qui servent. Un vrai besoin de quête de vérité.
Oui, ça, c'est vrai.
Et moi, sommes toutes les deux journalistes dans l'âme.
Oui, ça, c'est très vrai. On adore mener des enquêtes.
Oui.
Mener des enquêtes. D'ailleurs, c'est un livre d'enquête.
Oui, c'est un livre d'enquête.
Aux éditions Pocket Jeunesse. Un podcast du Poste Général.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week, we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.